Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et s'il ne renonçait à un cinquième mandat présidentiel que pour mieux rester au pouvoir en Algérie? Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier dans une lettre qu'il ne rempilait finalement pas pour un nouveau quinquennat, comme le demandaient les manifestants depuis 3 semaines. Mais il n'y aura pas non plus d'élection présidentielle le 18 avril prochain. Subterfuge dénonce l'opposition.
À 17 jours de la date prévue du Brexit, un nouveau vote crucial pour Theresa May au Parlement britannique.
La Première ministre a annoncé hier de nouveaux engagements de la part de Bruxelles pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre l'Ulster et la République d'Irlande après la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne. À la une en France, le vote du Sénat aujourd'hui sur la loi dite anti-casseurs, déjà adoptée en février à l'Assemblée. Un texte contesté jusqu'au sein de la majorité présidentielle, mais le Palais du Luxembourg devrait l'adopter sans modification.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, suite au crash d'Ethiopian Airlines, faut-il suspendre les vols des Boeing 737 MAX 8? On posera la question à un expert auprès du bureau Enquête Accident, Bertrand Villemer.
Entre euphorie et scepticisme, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir dans le centre d'Alger. Après cette annonce de la présidence, Abdelaziz Bouteflika renonce dans une lettre à briguer un cinquième mandat. Mais l'élection présidentielle prévue le 18 avril prochain est reportée sine die. En attendant, Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir en Algérie, prolongeant son quatrième mandat présidentiel. Toujours pas de changement conséquent au grand dam des manifestants hier à Alger. Le reportage de Leïla Berato.
Sur la place Maurice-Audin, il y a ceux qui klaxonnent, ceux qui sont venus avec leurs enfants et ceux qui font des photos avec leurs drapeaux. Mais malgré la joie apparente, l'annonce du report de l'élection ne satisfait pas.
On est sorti pour faire partir Bouteflika et on ne veut pas qu'il reporte le vote. On veut qu'ils s'en aillent maintenant, on ne veut pas qu'ils attendent demain ou après-demain et qu'ils montent un complot et qu'ensuite on le paye cher.
Au fond, ce qui n'est clair pour personne, c'est qui dirigera le pays une fois le président parti.
Il faut qu'il choisisse quelqu'un à la hauteur, quelqu'un qui gouverne le pays et qui s'occupe des jeunes. On ne veut rien, mais on veut quelqu'un qui aime le pays, qui serve le pays. C'est ça ce qu'on demande.
Sur le côté de la place, cet homme est venu avec sa femme et sa fille. Il espère que le discours d'Abdelaziz Bouteflika était sincère.
Il faut un changement, il est temps. Et j'espère que la voix de ces jeunes sera entendue, sera prise en considération pour les prochains gouvernements. Parce que c'est une jeunesse d'avenir.
Dans la soirée, alors que les voitures continuaient de défiler dans le centre d'Alger, de nouveaux appels à manifester ont été lancés pour les journées de jeudi et de vendredi.
De nouvelles manifestations prévues en Algérie, on entendait Leïla Berato en parler, car derrière le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un nouveau mandat présidentiel, le Raïs reste de facto au pouvoir, mais jusqu'à quand? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec vous, Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Catherine.
Abdelaziz Bouteflika répond donc à 3 semaines de contestation en Algérie, en promettant une fois de plus des changements, des réformes, mais aussi une nouvelle constitution soumise à référendum avant de quitter le pouvoir. En clair, il annonce son départ pour mieux rester, Marie-Pierre.
Et oui, un dessin du caricaturiste Dilemme résume, comme toujours, toute l'ambiguïté de la démarche. Sous un bandeau proclamant « Bouteflika renonce à un cinquième mandat », la demande de la rue, on peut voir le président algérien avachi sur son fauteuil roulant, perfusé, précisé en levant l'index « À la place, je ferai un quatrième mandat de 10 ans ». Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans la lettre aux Algériens qui lui est attribuée, Abdelaziz Bouteflika annonce son prochain départ pour mieux rester et l'organiser. Une première annonce déjà inconstitutionnelle, puisque rien ne lui permet de rester au-delà de ce mandat. Les autres points avaient déjà été évoqués dans sa plateforme électorale. Mise en place d'une conférence nationale inclusive et indépendante, chargée de réformer le système politique et d'élaborer une nouvelle constitution. C'est là un message habituel du régime, mais aucune garantie sur la personnalité chargée de piloter cette transition et bien sûr, aucune date pour cette présidentielle reportée. Seule concession au calendrier, cette conférence doit, je cite, « s'efforcer de compléter son mandat avant la fin de l'année 2019 ». Et bien sûr, le président reste donc jusque-là à son poste. On entendait à l'instant le scepticisme de la rue face à une manœuvre jugée dilatoire. Pour le chercheur Kader Abderrahim, invité de notre antenne hier à 22h, le compte n'y est pas.
Pour entrer dans un véritable processus de démocratisation,
Il faut beaucoup plus. Il faut à la fois le retrait du président actuel. Deuxièmement, il faut des garanties sur un processus politique qui ne sera pas remis en cause parce qu'il y aura eu des péripéties. Et il faut, trois, que les Algériens, évidemment, restent mobilisés. Donc, c'est que le début d'un processus.
Et c'est en effet ce vendredi que chacun va scruter. La jeunesse, véritable auteur de cette première concession, appelle à se mobiliser massivement. Le rapport de force entre la rue et le pouvoir, quels qu'en soient les véritables dépositaires, va donc se poursuivre. L'inconnu n'est pas tant la mobilisation que l'attitude de l'armée qui a jusqu'à présent laissé faire et la capacité des uns ou des autres à prendre le contrôle de la transition.
Marie-Pierre Véraud, merci pour ces explications. Lui appelle de nouveau à manifester au Venezuela. L'opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par Washington et Paris notamment, a obtenu hier du Parlement vénézuélien le déclenchement de l'état d'urgence après 4 jours de panne d'électricité dans le pays, aggravant la pénurie alimentaire. De son côté, le président contesté Nicolas Maduro appelle lui la population à la résistance active contre les attaques fomentées, selon lui, par les États-Unis contre le système électrique du Venezuela. Il accuse Washington de vouloir préparer une intervention militaire. Les États-Unis annoncent, eux, le retrait de tout leur personnel diplomatique encore présent à Caracas. Direction le Royaume-Uni à présent, où la première ministre joue son va-tout aujourd'hui devant le Parlement. Theresa May va demander aux députés de valider son accord sur le Brexit, où elle a obtenu hier soir de nouveaux engagements de la part de l'Union européenne, notamment sur la question de la frontière entre les deux Irlandes, avec le backstop ou le filet de sécurité qui prévoit en dernier recours le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE. Sur ce point, Theresa May a donc obtenu de nouvelles garanties du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le vice-premier ministre britannique David Lidington s'en est expliqué hier devant les députés à Londres.
Le premier document confirme que l'Union européenne ne pourra pas piéger le Royaume-Uni dans le filet de sécurité indéfiniment. Et puis l'instrument commun reflète aussi l'engagement du Royaume-Uni et de l'UE à travailler au remplacement du filet de sécurité avec des arrangements alternatifs d'ici décembre 2020. En incluant cet engagement, cette disposition sera juridiquement contraignante.
Le vice-premier ministre britannique David Lidington. Le texte repose désormais entre les mains du procureur général du Royaume-Uni. Si Geoffrey Cox estime, comme au mois de janvier, que l'accord négocié entre Londres et Bruxelles représente un piège pour le pays, le texte risque d'être rejeté à une très large majorité par les députés. Mais s'il valide les changements annoncés hier soir, les députés eurosceptiques rebelles qui s'opposent depuis des mois au gouvernement May pourraient alors déposer les armes. En attendant de lever tous les doutes sur le Brexit, aura-t-il lieu le 29 mars prochain, avec ou sans accord, ou bien sera-t-il reporté? L'université la plus célèbre de Londres vient, elle, de créer une adresse fantôme en République d'Irlande. La branche médicale de UCL, University College London, est désormais domiciliée à Dublin, Antoine Gignot.
C'est une adresse discrète à Dublin qui abrite la toute nouvelle filiale de l'Université de Londres et de l'hôpital UCLH. Tout a été fait en urgence il y a 3 semaines, explique Hélène Cadieu, qui supervise les protocoles de sécurité liés à la recherche médicale.
Ça s'appelle UCL Research Limited, qu'ils ont créé au mois de février en fait.
C'est quoi? C'est une coquille vide?
C'est une boîte postale. Et ça nous permet de fonctionner, ça veut dire qu'on existe dans un pays de la communauté européenne. On a essayé de trouver des solutions pendant 2 ans, de voir, on attendait, et puis bon, on ne pensait pas en arriver là. L'université a engagé un avocat, voilà, qui leur a donné le conseil de faire ça.
Car l'enjeu est colossal. Les programmes européens comme Horizon 2020 ont apporté aux chercheurs britanniques 2 milliards d'euros ces 5 dernières années. Leur interruption menacerait directement plusieurs établissements au Royaume-Uni et par ricochet sur le continent.
En Allemagne, la haute autorité, au mois de février, a communiqué avec nos partenaires, les hôpitaux et les laboratoires avec lesquels on travaille, et leur a dit qu'il fallait une adresse en Europe, ou alors ils allaient arrêter le projet. La réalité, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'Europe. On fait tellement partie de l'Europe qu'on ne peut pas en sortir.
Et les scientifiques ne cachent pas leur principal souhait, un arrêt pur et simple du Brexit.
L'action Boeing a perdu plus de 5% hier soir à Wall Street après le crash dimanche en Éthiopie d'un Boeing 737 MAX 8 tuant les 157 personnes qui se trouvaient à bord. La Chine, l'Indonésie, Singapour et une vingtaine de compagnies aériennes ont décidé de ne pas attendre les conclusions de l'enquête pour clouer au sol leur Boeing 737 MAX 8, modèle déjà impliqué dans un crash en octobre dernier en mer de Java. Aux États-Unis, l'Agence fédérale de l'aviation a, elle, demandé à Boeing d'effectuer des changements changements au plus tard en avril sur des logiciels et sur le système de contrôle MCAS conçu pour éviter les décrochages. Boeing doit également actualiser le manuel destiné à la formation de ses pilotes. Décrit comme lâche, dangereux et sans la moindre compassion aux assises de Bruxelles, Mehdine Mouche a été condamné cette nuit à la réclusion à perpétuité pour les 4 assassinats terroristes qu'il a commis en 2014 au musée juif de Bruxelles. Une condamnation attendue par les parties civiles, mais elle repart, Angélique Boin, sans avoir obtenu ni aveu ni explication de la part de l'accusé.
L'homme restera sans doute un mystère pour les 12 jurés, les magistrats et les avocats de la cour d'assises. Invité à prendre la parole une dernière fois hier après-midi, Mehdine Mouche se lève et lance, ironique, la vie continue. Ultime provocation de la part du djihadiste français qui va donc poursuivre cette vie en prison. Pour le condamner, vous devez tenir compte de sa lâcheté, avait déclaré un peu plus tôt l'avocat général. Lâcheté d'un homme qui a tué dans le dos, de sang-froid. Lâcheté de celui qui se tait et ne revendique pas ses actes. Rappelant aux jurés que le jeune homme n'a cessé de dire qu'il allait s'expliquer sans jamais le faire. Rappelant sa radicalisation, son attitude provocante pendant les 9 semaines d'audience et le risque important de récidive, Yves Moreau conclut, Mehdine Mouche est un psychopathe. Nasser Benrer, coupable de lui avoir fourni les armes de la tuerie, a été condamné de son côté à 15 ans de réclusion. Peu avant que les jurés ne partent délibérer, le Marseillais avait avoué sa honte et publiquement regretté d'avoir croisé la route de Nemouche, qualifié de monstre.
Vous écoutez le journal de Catherine Dutu. La suite des matins sur France Culture, le Sénat votera sans la modifier la loi dite anti-casseurs adoptée début février à l'Assemblée.
Un texte contesté jusqu'au sein de la majorité présidentielle et ce vote final en séance publique est prévue donc aujourd'hui au Palais du Luxembourg, sans modification donc, ce qui a du mal à passer auprès de l'opposition, mais aussi et surtout auprès des 50 abstentionnistes de la majorité, Rosalie Lafarge.
Se serait-il fait avoir ? Pour la plupart, ils se sont abstenus plutôt que de voter contre, justement parce que le texte devait revenir. C'est en tout cas ce que pensait la députée LREM du Bas-Rhin, Martine Vonner.
On se plaint souvent des allers-retours des navettes, mais là, pour un coup, j'espérais vraiment que ce texte reviendrait à l'Assemblée. Et je me dis que c'est fort dommage me concernant de ne pas avoir voté contre en première lecture.
Et elle, comme d'autres, y croyait vraiment à cette deuxième lecture. Les sénateurs sont certes à l'origine du texte, mais ils dénonçaient une loi vidé de sa substance après son vote par l'Assemblée, Éric Botorel, député En Marche des Côtes d'Armor.
Il y a de leur part là probablement un coup politique.
Une analyse partagée par sa collègue varoise Cécile Muscotti.
Je pense qu'ils avaient deux choix. Soit modifier le texte pour réenclencher le débat au sein de notre majorité, ce qui les amuse beaucoup, ou de nous coincer, et c'est le choix qu'ils ont fait, et je suis, je vous avoue, très inquiète.
Inquiète par rapport à l'article 2 qui instaure l'interdiction administrative de manifester, et si le gouvernement est derrière tout ça, il se trompe pour le député marcheur du Vaucluse, Jean-François Cesarini.
Je ne sais pas si le gouvernement français a parlé avec la droite du Sénat, je ne sais pas s'il y a eu un accord politicien dans le dos des députés. Il y a une impression en tout cas de s'être fait contourner, alors qu'au final on va voir quoi ? Une saisine du Conseil constitutionnel, le gouvernement risque de se faire casser son article 2, ça sera encore plus dommageable politiquement, je trouve ça dommage.
Et comme pour devancer l'opposition de gauche déjà prête à dégainer le texte de saisine du Conseil constitutionnel, le président Emmanuel Macron a dit dès hier au Conseil des ministres son intention de saisir lui-même les sages sur ce projet de loi.
Le temps de ce mardi 12 mars partagé entre nuages éclaircis et averses. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 10 et 15 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 13 à 22 au sud.